wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Laura Capello, Solis et Jean-Christophe Briançon. À notre affiche, L'Abîme de Maya Sade, mise en scène Thomas Ostermeyer, en ce moment Gémeaux à Sceaux, Mal d'Aurore, d'après le conte de Lautréamont. Mise en scène et interprétation Benjamin Lazare au théâtre de l'Athénée, Othello de William Shakespeare, mise en scène d'Arnaud Churin au théâtre des Abbesses. Il y aura un coup de cœur qui sera donné ce soir par Laura Capello pour le festival Le Mois Créole 3. Jusque 9 novembre à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec L'Abîme. Ce que je ne sais pas le dire en allemand. Qui est germanophone ici ?
Abgrund.
Abgrund. Abgrund. De Maya Sade. Je dis bien ça ou...
Sade.
Ah, Sade. Bon. Alors, je recommence. Abgrund. De Maya Sade. Mise en scène Thomas Ostermeyer. On a l'habitude de le dire. On va dire que c'est quand même pas mal. Après Orlando, à l'Odéon, il y a une partie de la troupe de la Schaubühne. C'est bien dit ou pas ? Ça va ? Bon, je parle sous le contrôle maintenant de Laura Capel. Une partie de la troupe de la Schaubühne qui a posé ses valises à Sceaux pour y présenter donc à la scène nationale les Gémeaux, cette pièce qui se déroule le temps d'un dîner chez Bettina et Mathias avec deux couples d'amis alors que leurs filles Pia et Gertrude dorment dans leur chambre quand des bobos allemands dînent. De quoi parle-t-il ?
Mensch, es war auch langsam mal Zeit. Ne? Der Umbau, die neue Küche.
Ja.
Wir haben ja auch nie eine richtige Einweihungsparty gemacht. Ne?
Ja, wegen der Trennung. Ne?
Stefan.
Flüchtling ist nicht ganz politisch korrekt. Du sagst jetzt eher Geflüchtete. Okay. Das kannst du dann auch gendern. Weil bei Ing am Ende, da denkst du immer an Opfer.
Papa!
Wenn er...
Wenn die beiden...
Wenn du...
Was, wenn ich...
Avant la dispute sur ce spectacle Abgrund, L'Abîme, un premier tour de table pour résumer votre impression, Laura Capel.
Alors pour moi, deux pièces pour le prix d'une, ni l'une ni l'autre complètement abouties.
Jean-Christophe Briançon.
Bah, c'est une pièce dont le résumé s'avère être beaucoup plus intéressant que sa réalisation, finalement. C'est un peu cruel, mais...
René Solis.
Bon, c'est quand même une machine infernale qui a une efficacité certaine. Maintenant, oui, on peut ne pas marcher complètement à cette machine.
Alors, cette machine, comment fonctionne-t-elle ? On va d'abord parler, Laura Capel, si vous voulez bien, de la scénographie, de l'espace de jeu, des parties prises de mise en scène.
En commençant par le son, en fait, puisque la mise en scène de Thomas Ostermeyer est vraiment dominée par un parti pris sonore, des casques audio individuels qui attendent les spectateurs sur leur siège et qui donnent lieu à des tests sonores un peu comiques avec un technicien au début de la pièce pour s'assurer que tout le monde les a bien mis dans le bon sens. Une fois qu'ils sont mis, on ne les enlève plus. Toute la pièce est entendue à travers les casques. Le dispositif rappelle un peu celui d'un spectacle de Simon McBurney qu'on a vu à l'Odéon il y a 2 ans à peu près, The Encounter, qui était un grand voyage sonore et sensible dans l'Amazone. Ici, le son est au service d'un spectacle plus conventionnel. Sur scène, on voit un grand îlot de cuisine à l'américaine, dressé pour accueillir des invités dans un appartement que la note d'intention décrit comme bourgeois. Un écran ou un rideau transparent à l'avant-scène nous sépare des acteurs pendant une grande partie du spectacle, comme s'ils étaient dans un bocal, alors que leur conversation nous est presque chuchotée à l'oreille par les casques. Au-dessus de la tête des acteurs, on a les titres des différentes scénettes, puisque la structure est assez fragmentée, et les incursions dans d'autres espaces de la maison se font à travers la vidéo ou en marge de l'espace central.
Très bien. Je crois que j'ai bien vu les images. Je suis jamais arrivé à Sceaux vendredi soir, donc je découvre vos impressions et le rendu de cette scénographie. Jean-Christophe Briançon, alors ?
Alors j'ai été déçu pour plusieurs raisons. La première étant que j'attendais beaucoup de ce spectacle, parce que je trouve que le résumé dans le programme de salle est très très énigmatique. On nous parle de gens qui se réunissent pour poser plein de questions auxquelles ils ne répondront pas, des questions plus ou moins fondamentales, d'autres un peu plus futiles. Tout ça dans une tension qui est censée prendre place avec un drame qu'on sent arriver petit à petit. Bon, je sais pas, il y avait quelque chose, une tension que je sentais venir qui pouvait m'intéresser. En fin de compte, j'ai assisté à une pièce toujours évidemment bien orchestrée, puisque, comme le disait René, bon, Thomas Ostermeyer sait faire son métier, donc
les comédiens de la Chaux-Bunau aussi,
les comédiens de la Chaux-Bunau également, bien qu'ils ne soient pas, on en parlera, je pense, exploités au juste niveau de leur valeur. Bon, malgré tout, Thomas Ostermeyer sait faire son métier. La scénographie est d'une élégance rare. Le travail sonore dont parlait Laura, au-delà de cette petite afféterie qui est le système mis en place à travers ses casques, ce travail sonore est assez intéressant, je trouve. Le travail filmique également, ce qui est assez rare, puisque bon, la vidéo est souvent mal utilisée. Ici, elle est utilisée de manière très simple. Hein. La vidéo est utilisée pour nous montrer un espace qui n'est pas sur scène. Donc c'est quand même un petit peu le premier degré de la vidéo. On nous montre, alors qu'on est dans le salon, ce qui peut se passer dans la chambre des enfants. Donc on est au premier degré, mais malgré tout, la forme de cette vidéo est très bien menée. Elle crée la tension qui malheureusement manque dans cette dramaturgie. Et c'est là, pour moi surtout, que le bât blesse, cette dramaturgie qui, à mon sens, a été un petit peu bâclée, puisque toute cette tension qui aurait pu être présente, tout ce pastiche de ce monde, de gens qui se posent des questions.
Mais c'est ça, il parle de quoi en fait ?
Il nous parle de...
Parce qu'il est censé nous parler de
beaucoup de choses, mais finalement, c'est des petites scénettes entrecoupées qui nous montrent des gens se poser des questions. Bon, certaines, comme je disais, plus intéressantes que d'autres. Bon, tout ça pour nous montrer dans l'afflux de questions, dans l'afflux de paroles et dans le luxe qui est le leur, pour nous montrer à la fois la futilité de cette vie et la faille, comme le titre de cette pièce l'indique, l'abîme dans lequel chacun peut tomber à chaque instant de sa vie. Malheureusement, on ne voit finalement pas tant que ça la faille. À un moment donné, d'ailleurs dans le texte, nous est demandé où est l'abîme, quand le montre-t-on ? Bah, finalement, assez rarement dans cette pièce. Et c'est ça que je déplore, c'est de ne pas voir l'abîme, de ne pas voir la faille.
Mais René Solis, c'était plus
tempéré. Oui, alors je suis pas d'accord sur la tension, parce que je trouve que la tension, elle est là, elle est dramaturgiquement, à la fois dans le texte de la pièce et dans la mise en scène d'Ostermeyer, elle est réussie. Et l'abîme est là, et l'abîme, il est réel, il est matériel, puisque c'est un véritable abîme qui s'ouvre à un moment. Je ne sais pas si on peut raconter ou pas ce qui se passe, mais enfin, disons qu'à l'intérieur donc de ce dîner où effectivement il y a une tension qui monte, il y a la volonté de faire advenir quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie brutale, voilà, et totalement inattendue, et de voir ce que ces personnages font. Avant, pendant et après cet événement tragique. Alors moi ce qui me pose un peu plus question, c'est d'une certaine façon, c'est une critique que je fais assez souvent à Ostermeyer, où j'ai l'impression d'être, c'est un peu les habits neufs du vieux théâtre, d'une certaine façon, qu'on est dans un théâtre qui est un théâtre, on n'est pas seulement dans un intérieur bourgeois, mais on est aussi finalement dans un théâtre bourgeois, ce qui n'est pas forcément si péjoratif que ça, ce mot de théâtre bourgeois. On peut dire c'est important, le théâtre bourgeois, il y a des metteurs en scène.
Luc Bondy le faisait très bien aussi.
Luc Bondy faisait ça merveilleusement bien, il l'assumait complètement.
Donc voilà,
ce que je reprocherais plutôt à Ostermeyer, enfin reprocher, c'est peut-être un grand mot, mais je m'interroge quand même sur sa volonté d'être, de prétendre être un rénovateur important, alors que je trouve qu'il se coule finalement assez bien dans quelque chose qui reste un exercice un peu classique. Et là, en l'occurrence, je disais que la tragédie rôde dans ce qui est au départ une comédie. Alors on pense à Yasmina Reza, et en plus, c'est vrai qu'on en a un peu marre de l'ironie aux dépens des bobos. Enfin, il y a là quelque chose que on a beaucoup entendu quand même, et c'est pas ça qui est le plus fort. Mais cette tragédie, cette volonté de la mettre là, elle est en soi, elle peut être intéressante, la tension existe, mais finalement on est beaucoup plus dans une sorte de mélodrame, voilà, les, là aussi les habits neufs d'un mélodrame contemporain.
Mais rappelons quand même que Thomas Ostermeyer, dans son pays, l'Allemagne, est considéré comme un metteur en scène bourgeois, dans une institution oui. bourgeoise, et en France, c'est vrai qu'il y a une sorte de, peut-être de malentendu, on va dire, mais que lui, enfin, je crois qu'il assume très bien.
Il l'assume, et d'ailleurs, il
et
en
sa
joue,
place,
il,
sa responsabilité.
Il plaisante à la fin, il y a des moments très drôles, il faut dire que le moment, et, par exemple, il y a tout un jeu sur Castorf, alors de private joke pour les spectateurs de théâtre allemand, mais qui est assez amusant. Enfin,
sur Franck Castorf, son aîné.
Son aîné
est beaucoup plus destroy.
Esthétiquement, ils sont dans deux opposés. On peut
absolument.
Dire.
Alors, à Capelle.
C'est vrai que pour revenir à la question de la tension dramatique, c'est presque d'autant plus frustrant qu'on voit des embryons de tension. Elle est là, mais la structure est tellement épisodique et tellement fragmentée qu'on arrive à la fin d'une scène très rapidement, on passe à autre chose et on a perdu quelque chose. On retrouve jamais complètement la montée en tension qui pourrait vraiment en faire une vraie tragédie. C'est vrai que la première partie ressemble un petit peu à un bingo des sujets bobos. Alors, on nous parle de la bulle dans laquelle les personnages se demandent s'ils vivent, la tension qu'ils apportent ou non aux réfugiés, la relation libre d'un couple d'amis qu'on critique en douce, les bienfaits de l'épeautre et de la lavande, la frustration d'un invité gay qui se retrouve élevé au rang de porte-parole de sa communauté par les autres couples. Tout ça, il y a quelque chose qu'on reconnaît, qui est dit en allemand et qui, sans doute, est vrai aussi dans le contexte allemand, qu'on reconnaît également en France. Mmh. Et en même temps, à un moment donné, la pièce bascule dans la tragédie, donc on l'a dit. C'est dit dès le programme de salle, donc on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais quand ça bascule, finalement, même la tragédie n'aboutit pas complètement.
Mais est-ce qu'on peut s'interroger quand même sur l'auteur, Maya Zadeh, pardon? Est-ce que c'est pas là que le bas blesse à vous entendre tous trois?
C'est sa deuxième pièce montée à la Schaubühne. La première n'avait pas été montée par Thomas Ostermeyer. C'est une première collaboration avec lui, même si elle est dramaturge depuis très longtemps à la Schaubühne. Est-ce que...
Dramaturge au sens allemand, c'est-à-dire quelqu'un qui aide à approcher les textes, à travailler sur les textes.
Exactement. Donc on ne sait pas vraiment ce qui relève peut-être d'un manque encore de maturité complète de l'auteur, peut-être. Ou alors, effectivement, la manière dont Thomas Ostermeyer s'en empare, pas totalement abouti. On sait qu'il travaille énormément. On parlait du système de la Schaubühne. Est-ce qu'à un moment donné, il aurait fallu un petit peu plus de temps pour faire aboutir cette mise en scène avec les acteurs? Peut-être.
Jean-Christophe Briançon.
Je suis pas certain que l'auteur soit fautif s'il y a une
faute
à trouver.
Je pose la question,
parce que je pense que, en tout cas, dans ce texte que je n'ai pas lu, seulement entendu le soir de la représentation,
est-ce qu'il est édité
dans
en
ce
France
texte, il ne me semble pas. En tout cas, quelqu'un m'a dit qu'il ne l'était pas.
Bon,
du coup,
je vérifie dans le dossier de presse.
Vérifier, mais il me semble qu'il n'est pas encore publié. Et je crois que entre les lignes de ce texte se trouve effectivement la nourriture nécessaire à faire de cette histoire une tragédie digne de ce nom. Manquait plus qu'à l'orchestrer à peu près correctement et au-delà des simples petits systèmes, qui donnent l'impression d'un travail un petit peu sérieux. Ces systèmes de flashback, de retour en arrière, d'ellipse temporelle, etc., qui nous permettent de croire que Thomas Ostermeyer a tenté quelque chose. Je pense qu'il aurait fallu quelque chose d'un petit peu plus appuyé et peut-être aller au-delà de ces discussions qui émaillent la pièce, qui prennent beaucoup de place, ces discussions entre les invités à ce dîner, pour se concentrer vers d'autres choses, vers ce qui se passe dans ces chambres d'enfants, justement, pour le faire advenir autre que simple mélodrame bourgeois, comme disait René. Je pense qu'il y a quelque chose de bien supérieur à la simple tragédie factuelle qui va arriver aux gens qui accueillent ce dîner. Il y avait un travail peut-être à opérer sur la manière dont les enfants sont représentés, sur la façon dont ils parlent, sur la manière dont ils apparaissent ou non sur scène, sur la manière dont ils sont filmés à l'écran. Il y avait quelque chose à faire là, quoi, qui nous aurait permis de partir au-delà de ces simples discussions et de ce simple bingo des conversations bobos. Comme
alors, question d'un non-spectateur encore de ce spectacle. Est-ce que ce dispositif technique qu'on évoquait au début, les casques audio, la vidéo, est-ce qu'il n'a peut-être pas passé trop de temps ou beaucoup de temps là-dessus? Est-ce qu'il est encombré par son dispositif selon vous, René Solis?
Non, je ne crois pas que le dispositif encombre. En plus, il y a ces nouvelles utilisations des casques avec le fait qu'on peut... la table est longue et donc quand ça part à gauche, c'est dans l'oreille gauche. Quand ça part à droite de la table, ça part dans l'oreille droite. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien fait. Non, c'est drôle en vous entendant, moi qui qui dit des choses pas forcément extrêmement enthousiastes sur ce spectacle. Je vous trouve quand même un peu sévère parce que c'est vrai que alors on voit bien Maya Zadeh, on voit bien les influences, hein, on voit bien et Boto Strauss et Yasmina Reza, voilà, c'est deux auteurs qu'elle a sans doute voilà dont,
avec qui elle a eu en tête,
on peut dire des
choses. Oui,
et c'est vrai sur le ce que je disais, enfin ce que vous avez dit sur la futilité comme ça de ces conversations, le côté bobo et tout. Et en même temps, elles sont quand même là aussi justement comme des leurres, c'est-à-dire que comme des leurres pour ce qui est à venir, pour cette tragédie absolument totalement monstrueuse quand même. Et la tension, elle est quand même là. Elle est y compris là dans la construction de la pièce et dans la mise en scène, dans ce que vous disiez sur les flashbacks et les allers-retours, dans les distorsions temporelles. C'est-à-dire que on est dans l'avant, on est dans l'après, on est dans le pendant. Et comme les choses reviennent, on sait déjà que le pire est arrivé, et en même temps on a de nouveau une scène du avant le pire, et tout à coup cette scène d'avant le pire, donc où tout va bien, où tout est normal, où on est dans le même ton que le début de la soirée, prend une toute autre coloration évidemment. Et donc la tension, elle est quand même là. Donc je trouve que je parlais d'une machine infernale, moi j'ai l'impression que beaucoup de spectateurs de ce spectacle sortent quand même très retournés parce qu'ils ont vu et entendu, et donc de ce point de vue là je trouve que c'est efficace. Maintenant, encore une fois, on peut ne pas marcher complètement, mais
Laura Capelle à nouveau.
Il faut ajouter que les acteurs portent quand même très bien ce texte, pour abonder dans le sens
de René.
Alors
Jean-Christophe, il n'avait pas l'air d'accord, donc il va répondre dans un instant. Laura, pour
vous,
il le porte bien.
Mais je trouve que la troupe de La Chaubuneau le porte bien. On retrouve Jenny Koenisch, notamment, qu'on vient de voir dans le rôle d'Othello. Alors elle a une belle
rentrée. Othello, c'est tout à l'heure. C'est pas elle.
Othello, c'est pour tout à l'heure. Dans le rôle d'Orlando, donc ça lui fait une grosse rentrée théâtrale à Paris cette année. Et là encore, elle est très fine dans le rôle de la mère, de l'hôtesse, de la maîtresse de maison. Elle est très simple, en fait, dans son jeu, et en même temps très juste. Il y a une simplicité dans sa manière d'être sur scène et avec Mathias, donc le père qui est joué par Christophe Gavenda, qui contraste avec la manière dont d'autres personnages sont construits. Je pense au rôle de Stéphane, qui est un petit peu l'ami qui met systématiquement les pieds dans le plat, très très bien joué par Moritz Gottwald. Toute cette construction-là fait qu'il y a quand même de belles résonances dans les scènes du début où les acteurs se jouent très bien des silences de la conversation, de la manière dont on peut faire résonner ces petites phrases qui paraissent être des clichés et qui là, dont le manque de profondeur nous apparaît de manière plus claire ici sur scène.
Vous trouviez qu'ils n'étaient pas suffisamment bien employés?
Je le trouve parce que je les connais. Je ne sais pas si quelqu'un ne les ayant pas vus peut s'en rendre compte. Je sais que ces comédiens-là sont capables de choses extraordinaires, et en particulier Jenny Koenisch qu'on vient de voir, qui est une comédienne formidable.
Qui sauve un peu Orlando.
Qui sauve totalement Orlando.
Un peu.
Ensuite, je pense que cet avis ou ce sentiment qui a été le mien quant à leur jeu est aussi lié au dispositif, ce dispositif sonore qui est mis en place, qui, à mon sens, pour revenir dessus, ne sert pas à grand-chose au-delà de son idée. L'idée qu'il recouvre, qui est belle, essayer de nous faire entrer par le truchement de ses casques dans l'intimité de ces gens, c'est une belle idée. Au-delà de l'idée, je suis pas sûr que ça serve réellement la pièce, et je suis pas sûr non plus que ça serve le jeu des comédiens et que ça leur permette d'être à la mesure de leur grande qualité.
René Solis, pour conclure.
Oui, un mot encore sur le jeu. Moi, j'ai aussi trouvé que le jeu était bien dans une sorte de retenue, comme ça. Ils sont en dessous un peu. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça introduit là aussi une distance des choses. Mais ce qui m'embête plus dans le traitement des personnages, et ça, c'est pas du tout la faute des acteurs, je pense que c'est dans la pièce, et c'est aussi dans la direction d'Ostermeier, il y a une façon de pas aimer ces personnages, c'est-à-dire que ils sont pas, ça veut pas dire que ne pas aimer ces personnages, ça veut pas dire vouloir que les personnages soient gentils, ça veut dire que s'intéresser à eux au point de leur donner une de se projeter en eux et de permettre aux spectateurs de se projeter en eux, et là il y a une position qui est un peu en surplomb, et donc on est dans un théâtre qui est un peu un théâtre un peu mécanique de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les personnages ils sont pas vraiment sont pas aimés par l'auteur et par le metteur en scène.
Et ça, c'est aussi rejoint par le dispositif qui fait de cette pièce de facto une sorte de système ou une sorte de d'œuvre proposée par un entomologiste
de la société qui le dépeint.
Et c'est pas forcément inintéressant. J'y avais pas pensé, mais au fil de ce que vous dites.
Et en même temps, c'est paradoxal parce qu'ils sont plus près de nous, en fait, enfin sur le plan sonore. Donc finalement, ce dispositif, on ne trouve pas complètement son sens. Oui, je trouve.
Abgrund, ouf, l'abîme. Mise en scène Thomas Ostermeyer de cette pièce de Maya Zade. C'est jusqu'au 13 octobre au théâtre au Gémeaux, au théâtre scène nationale, pardon, je vais y arriver. De Sceaux, à suivre dans la dispute, Mal d'Aurore, Othello et le Moi créole.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Mal d'Aurore. D'après les chants de Mal d'Aurore du comte de Lautréamont, Benjamin Lazare ne fait pas dans la facilité. Il reprend en ce moment, c'est en alternance, son spectacle 100% baroque, d'après Savigno Cyrano de Bergerac. Et en même temps, il propose une création autour d'un monument de la littérature. Ses chants de Mal d'Aurore, il est seul également. Sur la scène de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, il livre donc sa vision d'un texte qui fascina, on le sait, les surréalistes, mais aussi Magritte, Dali, Gainsbourg, Aimé Césaire. La liste est longue de ceux qui font partie de ce fan club du comte de Lautréamont.
Dans les endroits isolés des campagnes, le vent gémit à travers les feuilles ses notes langoureuses, et le hibou chante sa grave complainte qui fait dresser les cheveux à ceux qui l'entendent. Alors les chiens, rendus furieux, brisent leurs chaînes, s'échappent des fermes lointaines. Ils courent dans la campagne, ça et là, en proie à la folie. Tout à coup, ils s'arrêtent, regardent de tous les côtés avec une inquiétude farouche, l'œil en feu. Et de même que les éléphants, avant de mourir, jettent dans le désert un dernier regard au ciel et levant désespérément leurs trompes, laissant leurs oreilles inertes, de même les chiens laissent leurs oreilles inertes, élèvent la tête, gonflent le cou terrible et se mettent à aboyer, tour à tour, soit comme un enfant qui crie de faim, soit comme un chat blessé au ventre au-dessus d'un toit, soit comme une femme qui va enfanter, soit comme un moribond atteint de la peste à l'hôpital, soit comme une jeune fille qui chante un air sublime contre les étoiles au nord, contre les étoiles à l'est, contre les étoiles au sud, contre les étoiles à l'ouest, contre la lune, contre les montagnes, semblables au loin à des roches géantes gisantes dans l'obscurité, contre l'air froid qu'ils aspirent à plein poumon, qui rend l'intérieur de leurs narines rouge, brûlant, contre le silence de la nuit, contre les chouettes dont le vol oblique leur rase le museau, emportant un rat ou une grenouille dans le bec, nourriture vivante, douce pour les petits, contre les lièvres qui disparaissent en un clin d'œil, contre le voleur qui s'enfuit au galop de son cheval après avoir commis un crime, contre les serpents remuant les bruyères qui leur font trembler la peau, grincer les dents, contre leurs propres aboiements qui leur font peur à eux-mêmes, contre les crapauds qu'ils broient d'un coup sec de mâchoire, pourquoi se sont-ils éloignés du marais, contre les arbres dont les branches mollement bercées sont autant de mystères qu'ils ne comprennent pas, qu'ils veulent découvrir avec leurs yeux fixes, intelligents, contre les araignées suspendues entre leurs longues pattes qui grimpent sur les arbres pour se sauver, contre les corbeaux qui n'ont pas trouvé de quoi manger pendant la journée et qui s'en reviennent au gîte, l'aile fatiguée. Contre le bruit sourd des vagues, contre le rocher des rivages, contre les feux qui paraissent au mât des navires invisibles, contre les grands poissons qui, nageant, montrent leur dos noir, puis s'enfoncent dans l'abîme, et contre l'homme qui les rend esclaves.
Voilà pour cet extrait de Mal d'Aurore, une couleur de ce spectacle. Premières impressions, Jean-Christophe Briançon.
C'était pour moi une très belle idée, mais qui pêche par un trop de baroque et un trop peu de mesure, je trouve.
René Solis.
Entreprise vraiment difficile, et je trouve que, je sais pas s'il réussit tout, mais il réussit quand même pas mal de choses. Moi, j'étais quand même finalement très impressionné.
Laura Capel.
Oui, pour moi, une mise en scène vaillante d'un texte trop peu théâtral.
Ah, alors il faut dire que nous l'avons vu, Laura Capel, Jean-Christophe Briançon et moi, le soir de la première. René Solis. la quatrième seulement, mais dans des créations pareilles, et d'après les informations qu'on peut avoir, c'est un spectacle qui bouge beaucoup, et celui que vous verrez peut-être... alors ça reprend la semaine prochaine, hein, je crois que c'est une alternance d'une semaine à l'autre entre les Étails en Pierre de la Lune et Mal d'Aurore. Mais bon, Jean-Christophe, malgré vos réserves, vous pourrez nous décrire quand même la scénographie, peut-être les parties prises de l'adaptation aussi, parce que devant un texte pareil, on se dit, mais par quel bout le prendre, quel bout prendre, justement?
Alors, sur la scénographie, en l'occurrence, j'ai à peu près aucune réserve, parce que je trouve que c'est ce que la pièce nous propose peut-être de plus intéressant. C'est un plateau noir, plongé dans le noir, que nous voyons, qui reproduit, je pense, la chambre qui était celle dans laquelle Lautré Hamon écrivait cette pièce au moment où il l'a écrite, ce texte, plutôt, oui. Donc on voit sur le plateau un lit sur lequel sont disposés ce qui m'a semblé être des roses, en tout cas des fleurs, une table de travail sur laquelle est posé un instrument de projection de pellicule, et puis un tulle, un voile de tulle qui de temps à autre sera levé puis rabaissé au moment des projections qui vont émailler la représentation. Donc c'est une scénographie très simple, très sobre, très élégante, qui, à mon sens, est utilisée très correctement, de manière très très juste, très utile. Ensuite, pour ce qui est de l'adaptation, c'est un texte qui originellement a été pensé en six chants, qui constitue d'une certaine façon six parties qui pourraient être six actes de ce qu'est cette pièce désormais. Sauf que Benjamin Lazare a décidé d'en faire un seul et même bloc qui est entrecoupé. Donc des parties filmiques, des parties projetées, dont je ne sais plus si elles sont six ou non, erreur de critique, mais en tout cas, il est entrecoupé. Reste que malgré tout, c'est une pièce en un bloc qui nous est présentée, et c'est peut-être là aussi que le bât blesse, puisque dans une telle performance avec un texte si difficile, le présenter en un bloc de cette manière-là, la pièce n'a beau durer qu'1h40, c'est un petit peu étouffant pour le spectateur qui se perd dans un texte qui, déjà à l'origine, est particulièrement difficile.
Trop dense,
peut-être,
pour une attention soutenue. Mais ce n'est pas l'expérience visiblement qu'a vécu René Solis, à qui je redonne la parole.
Alors oui, c'est drôle parce que j'ai écouté l'extrait.
Soir de la première.
Oui, ouais. Alors justement, c'est intéressant de savoir qu'il a été pris dans le soir de la première, parce que c'est comme si je reconnaissais pas complètement ce que j'ai entendu, le spectacle que j'ai vu. Alors, il y a des parties, il y a des changements de registre et de ton.
Bien sûr, oui, c'est pas du tout sur le même ton.
Mais ce qu'on entend là, c'est beaucoup de véhémence et d'emphase. Et j'ai pas du tout le souvenir d'un spectacle de véhémence et d'emphase, presque au contraire. Donc, je ne sais pas si effectivement il n'a pas.
Ça, c'est l'extrait qu'on a reçu de la production du spectacle.
Donc voilà. Non, ce que je peux dire, moi, ce qui m'a impressionné. Alors, d'abord, j'en suis pas du tout fier, et je pense que malheureusement, je suis pas le seul dans ce cas. Moi, je suis jamais arrivé à lire.
Je fais partie du club aussi. Bon, j'ai essayé plusieurs fois.
Oui, bon, et donc à l'adolescence, voilà, j'ai des amis qui m'ont dit, lis ça et tout. Là, moi, je lisais Rimbaud, Mallarmé, il n'y avait pas de problème. Et puis dans la littérature fantastique, Lovecraft ou des choses comme ça. Mais Lautré Hamon, j'arrivais pas. Et je crois que je n'y suis jamais arrivé. De temps en temps, je vais pas très loin. Donc je te salue vieil océan, mais voilà. Et là, au moins, et grâce à Benjamin Lazare, moi j'ai entendu une assez bonne partie du texte, et c'est déjà pas mal parce que du coup je me suis dit tiens, grâce à lui j'ai l'impression d'avoir enfin découvert et compris un peu, Mal d'Aurore. Donc ça c'est déjà bien. Ensuite, ce que je trouve quand même assez admirable, c'est la façon qu'il a de tout prendre en charge, si je peux dire. C'est à la fois le texte et la diction, mais aussi tout le reste, c'est-à-dire les images, les visions à travers donc les images projetées en particulier, qui sont des images de rêves puis de cauchemars, qui sont jamais directement illustratives, qui sont toujours le résultat d'une recherche dramaturgique importante. Donc, il a une façon quand même d'embrasser tout ça que moi j'ai trouvé, il n'y a pas de, comment dire, je n'ai aucun doute sur sa décision de faire Maldoror et sa volonté à essayer de prendre ça en charge. Voilà. Donc il y a une sorte de vérité de l'acte artistique qui est à l'œuvre et qui, moi, m'a finalement beaucoup touché. Et puis je trouve que dans ces images filmées, il y a des choses absolument magnifiques. Donc il faut dire que c'est des images en noir et blanc. Que ça, c'est d'une certaine façon des images, donc c'est des rêves en noir et blanc, et on passe de la ville à la campagne, et très souvent, plusieurs fois, ces films se terminent par une inversion des images, donc tout d'un coup, les forêts ont la tête en bas, etc. Et il y a des choses absolument magnifiques là-dedans. J'ajoute aussi cette image du lit avec les roses, donc c'est effectivement le lit de la mansarde du Faubourg Montmartre. Et c'est aussi le lit de mort, puisque c'est là qu'il est mort, de la tuberculose, je me rappelle bien ce que j'ai lu sur l'autre amant. Et donc, cette présence-là de ce lit, de ces fleurs, et cette façon de tout faire, de voyage autour de ma chambre, et c'est ce que fait le comédien. Voilà, il y a quand même quelque chose d'une qualité et d'un engagement artistique qui est pas si fréquent.
Bon, on excuse vos nombreux voilà, mon cher René.
Désolé.
Pour votre enthousiasme. Laura Capel.
Oui, je dois dire qu'en un sens, je tire mon chapeau à Benjamin Lazare d'avoir osé s'attaquer à ce texte qui est une peinture littéraire de la cruauté très complexe, avec des structures de phrases pas du tout évidentes à faire entendre à l'oral, très dense, très touffue, une langue dans laquelle on aime se perdre sur le papier, dans laquelle on se perd parfois réellement, mais qui est très difficile à faire entendre dans sa globalité sur scène pendant 1h40. Alors je pense qu'il saisit bien la complexité d'un personnage qui n'a pas grand-chose de réaliste sur le plan psychologique, en un sens. Moi, j'ai eu plaisir à l'entendre, mais je me suis dit, pour donner une vie à ce texte pendant aussi longtemps sur un spectacle complet, peut-être que les spectacles vont faire qu'il va trouver le rythme, il va trouver son moyen d'y arriver. Je dis, il faudrait presque un monstre sacré pour dire un texte comme celui-là pendant 1h40. Et ce n'est pas du tout faire injure à Benjamin Lazare que de dire que parfois, du coup, on manque un petit peu de ce poids sur scène. Pour autant, je rejoins l'idée que pour moi, la scénographie est très réussie. Bon, j'ai eu un petit peu peur quand Benjamin Lazare est entré sur scène dans son costume bleu à paillettes, comme si on était venu assister à un spectacle de magicien pour enfants. Ça s'améliore. Ensuite, la scénographie d'Adeline Caron et de John Carroll, je trouve, est vraiment réussie, notamment lorsqu'elle stimule l'imagination. Je trouve qu'il y a de très beaux moments dans la vidéo, effectivement, ces inversions. Il y a aussi des passages un peu épileptiques, un petit peu qui vont un peu vite, un peu qui tournent de manière un peu rapide, alors que par moments, sur des effets plus simples, qui jouent sur l'illusion théâtrale, quand ils jouent sur des ombres chinoises, ce beau lit en fer forgé jonché de fleurs qu'on voit à travers le voile de tulle, les cintres que Benjamin Lazare fait monter, descendre lui-même, le jeu sur le feu, tout ça crée, je trouve, une intimité avec le spectacle qui est très belle et très appropriée pour de la poésie, à mon sens.
Alors, je veux dire donc que je fais partie du même club que René Solis, ceux qui ont essayé plusieurs fois de lire sans vraiment y parvenir, et que je suis comme vous. Pour moi, il y a une découverte du texte, il était temps. Et donc, grâce soit rendue à Benjamin Lazare pour cela. Alors, j'entends bien la question du monstre sacré, et on pense, parce que ça va être dans ce même théâtre à télé dans peu de temps, à Denis Lavant qui va revenir nous faire entendre du Beckett, avec La Dernière Bande, l'an dernier, où il y a 2 ans, c'était Cap au Pire, dans le genre de texte compliqué aussi.
C'était exactement le même principe, c'était aussi difficile.
C'était aussi difficile, mais en même temps, moi j'étais sensible, et c'est vrai que l'extrait, alors, choisi par nous, puisqu'on avait l'intégralité de la captation, m'a-t-on soufflé au casque, choisi par nous ce soir, rend peut-être pas justice, je suis d'accord avec René Solis, parce que moi j'aime justement la délicatesse de Benjamin Lazare sur ce texte, alors que l'ayant peu lu, mal lu et jamais en entier, effectivement, on peut penser à quelque chose de plus violent, de plus rugueux. Et là, je trouve qu'il y a une délicatesse qui va assez bien d'ailleurs aussi avec le travail vidéo et scénographique, qui du coup est assez, m'a paru assez juste pour faire. En tout cas, le texte m'est parvenu de cette façon-là, et peut-être que autrement, dans une profération plus puissante, j'aurais peut-être sans doute été noyé dans un flot. Alors, je ne cache pas non plus que par moments, j'ai décroché. Voilà, j'étais sur autre chose, je revenais dans le texte, mais je pense que dans ce genre de représentation théâtrale, je ne sais pas quel spectateur écoute, comprend et absolument à 100% dans le texte. Ça fait partie aussi de, je pense qu'il n'y a pas de, en tout cas moi j'ai aucune honte à dire que je décroche et que je reviens et que je repars. C'est pas du tout non plus faire injure aux acteurs, aux metteurs en scène, ça m'arrive régulièrement. Et ce type de texte induit pas mal ça, Laura Capelle.
Je trouve que le travail sur la musique invite aussi à ça parfois. Oui, il y a tout un contexte où on peut rentrer et sortir assez délicatement effectivement de ce qui se passe. Il y a des beaux moments musicaux aussi, mais ça Benjamin Lazare a toujours travaillé avec la musique, donc c'est complètement naturel pour lui et ça se voit. On entend des percussions, il y a des cordes un peu inquiétantes par moments, une musique qui enveloppe la salle aussi, un travail sur l'espace. La création sonore est de Pedro Garcia Velasquez et Augustin Müller et c'est une belle dimension, je trouve, à donner à ce spectacle.
Ouais, quelque chose de fantomatique, hein. On est vraiment en compagnie d'un spectre aussi dans ce spectacle-là. Ce texte, il vient de loin. Très loin. Jean-Christophe Brianchon.
Je suis d'accord avec Laura, je trouve qu'il faut absolument insister sur le travail de création sonore qui, de la même manière que le travail de lumière aussi, qui sont chacun à leur endroit d'une qualité très étonnante et qui font de ce spectacle qui aurait pu être encore plus difficile une tentative vraiment touchante. Et je suis d'accord aussi touchante, c'est un mot qui est un peu condescendant, je ne suis pas sûr que ce soit le bon, mais je voulais aussi abonder dans le sens de René. Je trouve que la vérité qu'on trouve dans le geste de Benjamin Lazare est évidemment incontestable. Et il faut repréciser encore que moi, je l'ai vu comme vous le soir de la première. Et je pense que c'est un spectacle qui va beaucoup évoluer. Donc voilà, il faut malgré tout lui rendre hommage. Ouais.
Allez, on finit avec René Solis.
Je crois qu'on a dit déjà pas mal de choses et que finalement, je crois. Alors, je crois à ce spectacle et je pense qu'effectivement, il risque de se bonifier avec le temps. Et quant au monstre sacré, oui, c'est vrai. Au sens, c'est pas l'acteur tout seul qui fait tout avec son corps et sa voix, mais la façon dont il met en œuvre tous les autres éléments du théâtre, la musique, le son, les lumières, et comment en même temps il est celui qui de toute évidence orchestre tout ça et orchestre lui-même son propre
fait une belle
propre
addition production. De talent.
Ça fait quand même ça fait beaucoup de talent réunis, donc bon.
Ça aurait été très très beau aussi. Moi, j'ai constamment pensé que si ce spectacle avait été mis en scène par Claude Régis, ça aurait peut-être été un des plus beaux spectacles de l'année. Parce que ça m'a fait penser à un spectacle que j'ai vu de lui il y a une dizaine d'années, dont je me rappelle plus du titre, qui était exactement sur le même principe, avec un texte aussi difficile. Et je pense que Benjamin Lazare sur une partition de Claude Régis aurait été sublime.
Bon, on va peut-être les marier. Mal d'Aurore, hein, d'après les chants de Mal d'Aurore du Comte de Lautréamont, mise en scène de Benjamin Lazare, c'est au Théâtre de l'Athénée jusqu'au 19 octobre. C'est donc en alternance avec L'autre monde ou Les étails empires de la lune, un spectacle lui beaucoup plus ancien.
Et c'est un spectacle
magnifique, absolument magnifique. C'est celui qui joue cette semaine à l'Athénée.
Plus accessible de certaine façon.
Parce que Mal d'Aurore, comme ça, reviendra de temps en temps sur les scènes. C'est l'heure du coup de cœur de Laura Capelle ce soir pour le Mois Créole. C'est le troisième, c'est jusqu'au 9 novembre à Paris.
Oui, alors mon coup de cœur cette semaine pour le Mois Créole. Alors je précise que donc c'est écrit avec l'orthographe créole K-R-E. Y-O-L, mais que ça se prononce quand même créole, m'a-t-on dit. Oui, tout à fait.
Comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce, créole.
Oui, exactement.
Voilà.
Sans le Y.
Tout est dit.
Donc une très belle initiative qui vient combler, à mon sens, un vrai manque dans l'Hexagone. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Alors le sous-titre de cet événement est, toujours en créole, Festival Langue Epiquilti Créole, soit Festival des Langues et Cultures Créoles. On sait à quel point ces cultures sont marginalisées dans les circuits de diffusion de l'Hexagone. C'est un constat partagé par tout le milieu. Il suffit de se souvenir encore de ce débat tout récent, cet été, quand beaucoup ont découvert que des auteurs français d'outre-mer comme Maryse Condé et Raphaël Confiant étaient classés parmi les auteurs étrangers, à la FNAC et ailleurs, comme si on ne pouvait pas tout à fait accepter que leur travail relève intimement et profondément de la culture française. Donc, je ne suis pas la seule, je pense, à me dire souvent qu'une grande partie de ma culture reste à faire dans ce domaine. Et le Mois Créole est à mon sens une vitrine toute trouvée pour recréer du lien entre les artistes d'outre-mer et le public hexagonal. C'est la troisième édition cette année de ce festival qui est né à l'initiative d'une compagnie qui s'appelle Diffé Caco, qui a été créée par la danseuse et chorégraphe française Chantal Loyal. Alors Chantal Loyal, elle est originaire de Guadeloupe. Sa carrière s'est vraiment construite, elle est longue maintenant, s'est vraiment construite au carrefour des danses africaines et de la danse contemporaine. On l'a notamment beaucoup remarqué auprès de Dominique Hervieux et José Montalvo. On l'a vu aussi avec les Ballets et de l'Abbé. Donc une personnalité réellement de la scène chorégraphique française qui s'est lancée il y a 2 ans dans ce projet très ambitieux de festival qui court sur 1 mois à l'heure actuelle. Alors il monte en puissance là d'année en année. Et pour un événement qui fonctionne avec des moyens encore limités, l'ampleur des manifestations prévues est assez remarquable. Le mois créole donc va rayonner à la fois sur toute l'île de France, mais aussi à Strasbourg ou en Martinique et en Guadeloupe, logiquement, avec même une petite incursion à Montréal. Ce qui est très beau. Il envisage donc ce mois créole, les cultures créoles de manière assez large, parce que la programmation va de la musique au théâtre, en passant par des conférences, des initiations à la danse, des DJ sets, des contes. Il y a vraiment de quoi faire, quelles que soient vos préférences artistiques. Parmi ça, quelques points d'orgue à prévoir, donc quelques grands concerts, Yann Cléry, Mario Canonge à Aubervilliers, qui croisent musique caribéenne, jazz, art martial guyanais, Max Silla, aussi un grand poète à la flûte et jazzman, Jacques Schwartz-Barth, saxophoniste d'origine guadeloupéenne qui vit à New York. On a aussi, puisqu'on est sur une dispute théâtrale, une pièce en créole, Baudelanmou Payouen, j'espère que je prononce correctement, de Franck Salin, au conservatoire Maurice Ravel, c'est beau à voir. Et la reprise sur plusieurs scènes du dernier spectacle de Chantal Loyal, le très bon Cercle égal demi-cercle au carré, qui mélange les générations pour faire vivre la danse traditionnelle antillaise qu'est le quadrille, en la fusionnant progressivement avec les danses urbaines actuelles. Donc c'est un spectacle plein d'humour, très musical, qui montre aussi comment les structures chorégraphiques peuvent se répondre au-delà de genres qu'on imagine très différents. Voilà.
On va bien sûr trouver un lien renvoyant à toutes les informations sur ce mois créole sur la page de la dispute un an sur franceculture.fr. Il dure jusqu'au 3 novembre.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier sujet de cette dispute théâtre, c'est Othello de William Shakespeare, mise en scène Arnaud Churin. Si la dimension raciale est évidemment importante dans la pièce de Shakespeare, le mort de Venise, j'arrive jamais à le dire, étant aussi respecté par certains que méprisé par d'autres, Arnaud Churin s'en empare en renversant la proposition et Othello étant ici sur scène le seul, je cite le dossier caucasien, au milieu d'une communauté de femmes et d'hommes noirs. C'est bien sûr pas le seul geste créatif. On se demande en effet ce que ça produit sur le spectateur. On va avoir quelques réponses avec nos critiques après cet extrait.
De grâce, monseigneur, êtes-vous bien fermement marié? Car soyez certain de ceci, le Magnifico est très aimé. Et par son influence, sa voix est puissante. Quand on double comme celle du dange, il vous fera divorcer.
Laisse-le faire éclater son dépit. Les services que j'ai rendus à la République de Venise parleront plus fort que ses plaintes. Et personne ne le sait encore. Mais quand je saurai qu'il y a de l'honneur à s'en vanter, je le rendrai public. Je tiens ma vie, mon existence, d'homme assis sur un trône. Et mes mérites peuvent prétendre la tête haute à une fortune aussi élevée que celle que j'ai atteinte. Car sache-le, Iago, si je n'aimais pas la délicieuse Desdemone, je n'abandonnerais pas ma condition d'homme libre, mon célibat, aux chaînes et à la contrainte, pour toutes les richesses de la mer. Mon lieutenant, que la nuit vous soit douce, mon ami.
Othello, en ce moment, Théâtre des Abbesses, Théâtre de la Ville. Première impression sur cet Othello, René Solis.
Alors, c'est un spectacle qui prétend une certaine cohérence, mais j'ai un peu l'impression que c'est, par ailleurs, une fausse bonne idée ou une vraie mauvaise idée, même, peut-être.
Laura Capel.
C'est exactement ce que j'allais dire, une fausse bonne idée, dont on ne sait pas, pour moi, au final, si elle peut fonctionner ou non, à cause d'une direction d'acteur indigente.
Jean-Christophe Brianchon.
Non, ils ont tort, les écoutez pas. C'est une pièce très classique, peut-être une fausse bonne idée, mais en tout cas très rafraîchissante.
Bon, qu'est-ce qu'on y voit, René Solis, description
alors,
de la scène.
Alors, on y voit une scénographie qu'on pourrait qualifier d'orientale, sais pas comment dire ça, avec l'usage de panneaux de paravent manipulés par les acteurs sur le plateau. C'est un spectacle dont les couleurs sont importantes. C'est du noir et blanc, même si on se rend compte tout à la fin que c'est du bleu nuit, et pas vraiment du noir, les costumes. Donc tout est en noir et blanc. Ces panneaux qui sont disposés, manipulés par les comédiens pendant le spectacle, permettent aussi, c'est aussi des voiles derrière lesquelles une partie des scènes sont jouées en ombre chinoise. Voilà, donc toujours la dimension orientale. Et puis, à la scénographie, il faut ajouter, parce que c'est un peu inséparable, puisque là aussi, il y a une dimension orientale, une chorégraphie qui est, je dirais du tai chi, enfin, en tout cas, qui rappelle, les arts martiaux dans leur version directement de combat, et des costumes qui eux aussi ont qui font un clin d'œil à l'Orient, on peut dire.
D'accord, je vois, à peu près. Du coup, je vais commencer par Laura, quatre acteurs et un défenseur. On va un peu équilibrer les voix. Laura.
Alors, je dois préciser avant tout que ce concept auquel Arnaud Churin s'attaque est vraiment très compliqué. Il s'attaque donc à cette idée d'inversion des couleurs de peau dans la pièce, clairement avec les meilleures intentions du monde. Il nous dit que c'est une pièce sur la naissance de la haine de l'autre, qu'on peut la déplacer en inversant les dynamiques raciales à l'œuvre. Tout ça est très bien. Malheureusement, je suis pas sûre qu'il maîtrise tous les effets de cette inversion, qui pose des questions très complexes par rapport aux dynamiques raciales dans cette pièce et de manière générale au contexte social dans lequel elle a été vue et produite à l'origine. Évidemment, ce qu'était cette question à l'époque de Shakespeare n'est plus du tout la même à l'heure actuelle, mais c'est un monde où Othello, donc en tant que personnage mort, dont la peau est dite sombre, noire, est dominé, en fait, et dans une position de domination sociale. On est dans la République de Venise, en théorie, dans une République de Venise imaginée. Il fait l'objet de cette domination et ses réactions en dépendent en partie. En inversant les couleurs de peau, Arnaud Churin nous amène à une situation donc où c'est le blanc donc désigné comme caucasien pendant toute la pièce, au lieu de mort, qui est posé comme étant en situation d'être dominé, ce qui ne correspond à aucune société développée dans l'histoire de l'humanité jusqu'ici. Donc c'est une question vraiment très complexe, parce que on pourrait facilement se rapprocher avec cette défense de oui mais c'est exactement pareil, de finalement est-ce qu'il subit, c'est ce fameux racisme anti-blanc dont on nous rebat les oreilles donc dans certains endroits. Et je ne dis absolument pas que c'est l'intention, ça n'est pas l'intention, c'est pas comme ça qu'on le voit.
Mais c'est la perception spectatrice que vous interrogez.
C'est ce que ça peut amener, et je ne pense pas qu'il maîtrise suffisamment son concept pour se garder complètement d'une lecture qui n'est pas celle qu'il souhaite.
Sur cette question-là, alors, Jean-Christophe Briançon, inversion, un Othello blanc.
Je suis tout à fait d'accord avec Laura. Si j'ai trouvé du plaisir à voir cette pièce, c'est parce que j'ai très rapidement décidé que peu importait finalement ce qu'Arnaud Churin nous disait dans sa note d'intention, il fallait pas porter attention à cette idée d'inversion sur laquelle, au-delà de sa note d'intention, sur laquelle le théâtre de la ville, peut-être avec lui, on décide idée de communiquer, puisque les affiches nous montrent clairement que c'est le projet même, le projet central de cette pièce. Je suis tout à fait d'accord avec Laura. Au-delà même du risque que ça comporte, je trouve que ça n'a à peu près aucun intérêt, n'apporte rien, ni au texte original, ni à la pièce telle qu'elle nous est montrée. Donc
en fait, vous avez écouté la pièce, vous dites c'est pas mal cette Othello.
J'ai écouté la pièce et j'ai vu une forme.
Qui pourrait marcher.
un petit auteur sur lequel il faudrait miser. Non mais au-delà du texte, j'ai vu quelqu'un qui savait faire du théâtre avec des comédiens dirigés peut-être de façon on va dire aléatoire, mais en tout cas
ça c'est bizarre.
Non, mais il y a une scénographie, une occupation,
une distribution
de
un peu inégale.
Il y a une distribution un peu inégale, et peut-être certains comédiens portent leur voix de manière un petit peu premier degré atone, mais donc bon, c'est pas forcément la meilleure direction du monde. Malgré ça, je trouve d'une part que la scénographie
scénographie dont parlait René est très intéressante. Je trouve que cette scénographie toute simple avec trois ou quatre panneaux de tissu qui découpent l'espace est très efficace. Je trouve aussi que le travail sonore est très intéressant. Le travail des lumières qui est très très simple parce que l'espace est noir. Il y a juste, je crois qu'il y a quatre spots de lumière qui éclairent la scène, mais qui sont utilisés de manière très subtile. Voilà, j'y ai vu une forme et quelqu'un qui savait faire du théâtre, quoi, réellement. Alors, peut-être qu'il y a un travail dramaturgique à revoir, peut-être que cette idée n'est pas exactement la bonne, mais fondamentalement, j'ai vu quelqu'un qui savait faire du théâtre face à un public qui l'a très bien reçu, parce que je suis pas sûr, accessoirement, d'être le public visé par cette pièce, et le public qui était celui du jour où j'y suis allé, qui était le dimanche après-midi, était majoritairement constitué d'adolescents et d'enfants, et face à une pièce qui dure 2h40, je crois, quelque chose comme ça, ce public a été très réceptif, a été très réceptif à l'humour qui est mis dans cette pièce, qui est pas forcément très présent dans la pièce telle qu'elle est écrite à l'origine. Là, c'est fait de manière très énergique, avec un humour qui est très visible et très reçu par le public auquel il s'adresse, avec, voilà, comme je le disais, une mise en scène qui montre qu'Arnaud Churin sait faire du théâtre.
René Solis.
Oui, alors, indiscutablement, heureusement, on l'entend la pièce et on entend y compris effectivement des dimensions comiques, des choses assez réussies. Moi, c'est pas tellement la direction d'acteur ou le jeu qui m'ont gêné. Il y a quand même bon, d'accord. Alors si on dit finalement ce qu'il a voulu faire, ça n'a pas d'importance.
Mettons-le de côté.
Bah bon. Non, une fois que le geste est montré à son public, il ne lui appartient plus. Oui, donc finalement, donc, peu importe effectivement
donc,
ce qu'il a voulu faire.
Revenir un peu quand même là-dessus sur cette histoire. Ouais. Évidemment, la transgression, faire jouer les blancs par des noirs, les noirs par des blancs, les hommes par des femmes, les jeunes par les vieux par les jeunes, c'est presque l'essence même du théâtre. Donc en soi, je veux dire, heureusement que le théâtre a cette liberté. On a des exemples, dans Shakespeare récent, où Maria Cazares interprétant le roi Lear. Il y en a beaucoup. Fiona Shaw, Richard II, etc. Donc, c'est pas en soi le fait d'inverser les choses. C'est ce qui pose problème, c'est comme vous disiez, Laura, c'est le fait d'en faire un système, et c'est de voir ce que ce système produit. Et effectivement, je suis pas du tout sûr qu'il produise les effets qu'il espère, ou du moins qu'il maîtrise complètement ce qui se passe avec ça, à commencer par le changement, le mort qui devient le caucasien. C'est quand même très bizarre d'entendre caucasien, parce que caucasien, c'est un anglicisme, c'est un mot qui vient directement des formulaires d'immigration des États-Unis, et c'est du politiquement correct d'une certaine façon, caucasien, parce qu'on dit afro-américain, on dit caucasien, etc. Et donc ce terme-là, donné comme équivalent, dans l'inversion au terme de mort, est loin d'être évident, parce que quand on entend caucasien, espèce de caucasien, ce sale caucasien, je sais pas, parce que Dieu sait que le Othello, c'est rude, sur le rejet de l'autre et de l'étranger, il y a des choses, on l'entend pas, ou pratiquement pas, c'est-à-dire que y a cet enjeu-là de la pièce, il est pas là, donc déjà là il y a un souci.
Il faut préciser qu'il change le texte d'ailleurs pour essayer de coller à cette idée assez régulièrement, ce qui donne parfois des choses pas inintéressantes. Enfin, par exemple, il y a une mention au début des étreintes barbares d'un caucasien lubrique. Finalement, il y a un effet de surprise qui n'était pas inintéressant, je trouvais. Mais par contre, après, donc on est sur des poitrines blanches comme la chaux, qui ne peut pas plaire, tout ça. Il y a des choses qui déroutent les spectateurs qui sont pas inintéressantes nécessairement, mais qui ne font pas un système qui fonctionne pour moi, en fait. Surtout sur le plan du jeu. Alors, vous parliez des aspects comiques. Je dois avouer que pour moi, Othello n'est pas une pièce très drôle en théorie, et que j'ai trouvé
Il y a toujours des moments de comédie chez Shakespeare, qu'on coupe souvent d'ailleurs.
C'est sûr, mais il y a moins de personnages à prédominance comique que dans d'autres pièces de Shakespeare. Et du coup, j'ai trouvé que parfois le rire des spectateurs, en tout cas le soir où j'y étais, était plutôt au détriment des acteurs que un rire de connivence. Parce que parfois, les phrases, les répliques étaient tellement mal dites, avec des tons tellement, une tonalité tellement monotone, tellement plate, que du coup, c'était ça qui créait le comique, là où il n'était pas dans le texte.
René Solis.
Oui, j'ajoute que le côté systématique de la chose fait que les articulations à l'intérieur de la pièce et les relations entre les acteurs n'ont pas été tellement travaillées. Or, c'est quand même là que, dans cette articulation entre la jalousie et le racisme, le rejet de l'autre, la paranoïa, comment l'effet miroir entre Othello et Iago, comment Iago aussi est un jaloux, en fait, et que c'est de ça que ça part. Au départ, c'est la jalousie de Iago envers Othello, et comment tout ça se renverse. Toute cette alchimie qui passe par un... Je pense pas, pour le coup, effectivement, par un travail de direction d'acteur et de d'élucidation de ces relations, c'est comme si le fait d'avoir, ça y est, on a inversé les couleurs, et puis c'est bon, et donc il manque là quelque chose. Mais c'est vrai que la fable, d'une certaine façon, on l'entend, et on l'entend pas mal, donc on peut y compris l'entendre avec plaisir.
Laura Capel.
Si je peux ajouter simplement, je pense qu'une meilleure justification, presque une autre justification pour le concept d'Arnaud Churin, serait d'introduire plus de diversité dans la distribution, ce qu'il fait, puisque donc on a une prédominance d'acteurs noirs sur scène, ce qui est très intéressant. Mais pourquoi le faire avec Othello, où c'est une question centrale? Pourquoi ne pas aller mettre en scène d'autres Shakespeare et le faire comme si cette question n'avait pas d'importance au final, au lieu de créer tous les problèmes que ça cause?
Othello de Shakespeare, cette mise en scène d'Arnaud Churin, elle se donne au Théâtre des Abbesses, c'est le théâtre de la ville, donc c'est jusqu'au 19 octobre. Ensuite, elle ira au Théâtre Montansier à Versailles du 13 au 16 novembre, au Théâtre Malleroy à Chambéry les 28 et 29 janvier, puis du 24 au 29 mars au Grand T à Nantes. Le jeu de la dispute, c'est l'heure, je crois, puisque David Dana est entré dans ce studio, s'est assis, a un papier dans la main sur lequel il devrait être indiqué d'abord la question du jeu de vendredi soir et sa réponse.
Quels sont les noms des deux premiers spectacles de la trilogie conclue par déposition de Michel Rizzo? La réponse est Higher et Spacewalk.
Ce soir, des invitations à gagner pour La fin de l'homme rouge d'Emmanuel Mérieux, des invitations à gagner pour vendredi, le 11 octobre, c'est à 20h au Théâtre de la Criée à Marseille. Quelle est la question, David?
Qui est l'auteur du livre La fin de l'homme rouge?
C'est simple. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Toutes les informations sur l'émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Demain à 19h, une dispute musicale en compagnie de Laurent Burry, Charles Ardenne et Emmanuel Dupuis. À notre programme, le disque de Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion Liberta, Mozart et l'opéra. Une mise en scène de Guy Cassirs de The Indian Queen de Henry Purcell, c'était l'opéra de Lille dirigé par Emmanuel Haïm. Il y aura un autre disque au programme, Sextet, double sextet de Steve Reich par Ecozone. Et enfin, un coup de cœur de Charles Ardenne pour la sortie en DVD de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, mise en scène par Dmitri Tcherniakov.